Sainte Hélène, une sainte de l'église de Byzance, de l'église dite orientale, d'où est née la grande église orthodoxe qui est très ancienne, qui date du tout début de l'église, évidemment. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc, Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, je vous ai dit, était née en 249 environ, dans une famille extrêmement modeste. Elle n'avait pas grand-chose à offrir au départ. C'est une grecque asiatique. Hein. Elle est née en Bithynie, qui est une païenne. Elle ne s'est convertie qu'à 60 ans. Hein. À 60 ans. C'est extraordinaire. Elle menait la vie d'une fille d'auberge, ce qui n'est pas très recommandable. C'est ce qu'on dit dans les vieux textes, une fille d'auberge. En somme, il n'était pas, ajoutons, de profession plus misérable. Mais un jeune militaire, qui avait un certain pouvoir déjà, s'appelait Constance Chlore. Chlore comme du chlore, C-H-L-O-R-E. Il passait dans ce petit port d'Asie mineure, à Trépanse, en Bithynie. Puis s'était pris de la beauté de cette fille d'auberge, de cette Hélène. Alors il l'a amenée avec lui pour lui faire partager sa vie. Et l'origine extrêmement humble d'Hélène, sa situation, ça pouvait pas lui faire espérer beaucoup plus que d'être la concubine de ce Constance Chlore. Alors elle a suivi Constance, ce militaire, en Dalmatie. Et un fils, leur aîné, c'est Constantin, le fameux empereur Constantin, qui, en fait, était le plus grand empereur du monde. Donc, son le père, la Constance, a mené une carrière vraiment brillante, et après avoir vécu longtemps dans les camps militaires, il est devenu un général, en somme, ce qu'on appelait à l'époque un chef d'armes. Puis il a été nommé gouverneur. Puis finalement, César des Gaules, c'est-à-dire le représentant, c'est un peu comme un gouverneur général, si on veut, qui représente la reine ici au Canada, mais lui, il était le César des Gaules, c'est-à-dire de la France, si vous voulez. L'empereur Dioclétien lui a imposé alors de renvoyer Hélène pour épouser une princesse romaine qui lui a donné 3 fils, mais Hélène a accepté avec une certaine noblesse de cœur cette humiliation épouvantable qu'elle subissait. Elle a témoigné même beaucoup de dignité dans cette disgrâce terrible. Mais Constance Chlore ne cessait de l'aimer. Il avait dû la rejeter, mais il l'aimait toujours. Et lorsqu'il est arrivé à la fin de ses jours, sur le point de mourir, c'est son fils Constantin, le fils d'Hélène, qui l'a présenté à son armée comme son successeur, comme César des Gaules. Et alors, le jeune Constantin avait une âme noble, dit-on. Il aimait sa mère qui avait été rejetée et dont il avait été séparé. Et à Trèves, où il résidait, il l'a fait venir, puis il l'a entouré d'honneur, sa mère. Alors, elle a pris rang à ses côtés, et elle a aménagé dans un palais. Elle souffrait bien de voir son fils répudié, comme avait fait son père, sa première femme, pour épouser la fameuse Fausta, fille de l'empereur Maximilien Hercule, qui, lui, était brouillé avec son fils Maxence, puis s'était rapproché de son gendre. Alors, Constantin, qui s'était donc rapproché de l'empereur, a décidé de descendre sur Rome pour sauver Rome de la tyrannie de Maxence et de prendre le gouvernement. C'était une grande audace. Ses troupes étaient insuffisantes, et c'est maintenant que surgit l'histoire de la Très Sainte Croix, qu'on appelle la Sainte Croix de Jérusalem, la croix, quoi. Cette croix de lumière qui tout d'abord lui est apparu dans le ciel lorsqu'il a traversé les Alpes. Il a vu aussi le monogramme du Christ, que, en tant que grand chef des armées, il a fait peindre sur les boucliers. Il a tourné tout son espoir vers Dieu, et Constantin est devenu victorieux grâce à la croix. Et la croix va, dès lors, orner tous les monuments. Elle s'inscrit sur les monnaies, et c'est une nouvelle ère qui commence sous le règne de la croix. Constantin monte sur le trône. Il fait partager son triomphe à sa mère, Hélène. Il affirme à la face du monde entier son respect filial pour cette femme, sa tendresse pour sa mère. Il veut qu'elle soit proclamée Augusta, c'est-à-dire impératrice du monde entier, et que son nom soit gravé sur la monnaie. Il lui concède même la résidence impériale qui est pas loin du Latran à Rome, où il fait élever la première basilique chrétienne, Saint-Jean de Latran. Savez-vous que Saint-Jean de Latran est demeuré, en fait, l'église de l'évêque de Rome? Elle est, paraît-il, plus importante que Saint-Pierre de Rome sur le plan historique et liturgique. Tous les trésors de l'Empire de l'époque sont à la disposition de Sainte-Hélène. Hélène a plus de 60 ans et elle reçoit alors la lumière du christianisme. Et elle se donne au Christ avec passion, c'est assez étonnant. Ça rappelle notre sainte Jeanne de Lanoue d'hier. Je vous l'ai dit qu'elle était bienheureuse, Jeanne de Lanoue, hier, mais elle a été canonisée en même temps que sainte Marguerite Bourgeois en 1982. C'est un auditeur qui m'a rappelé ce détail que j'avais oublié. Alors elle prend place, Sainte-Hélène, dans l'histoire. Elle devient une des grandes fondatrices de la société chrétienne, et ses dons s'épanouissent là, dans sa sainteté, dans la sainteté. Les plus hautes vertus rayonnent de cette femme qui est très forte. Elle se transforme sous l'action de l'Esprit-Saint. Elle nourrit et habille les pauvres, comme notre sainte Jeanne de Lanoue hier, et comme tant d'autres dont je vous parlerai constamment. Elle nourrit donc, habille les pauvres, délivre de prison ceux qui y souffrent injustement. Elle paie même, avec l'argent, la rançon de ceux qui travaillent de façon abominable dans les mines. On a vu ça déjà au cinéma, dans des films qui se passent à cette époque, l'horreur des gens qui travaillent dans les mines, c'était épouvantable. Elle a même fait rappeler des exilés qui avaient été envoyés au loin. Les souffrances les plus diverses trouvent dans son cœur une grande consolatrice. Elle devient la mère de tout le peuple. Et sous son ordre, par son ordre, on construit des églises qu'elle enrichit d'ornements précieux. Et le peuple voit son impératrice qui se rend à la messe au service divin, toute modestement vêtue. Elle se confond avec les fidèles, elle se recueille et elle prie vraiment. Ça ne doit pas être facile de prier comme ça quand on est une personne aussi importante, qu'on sait que tous les regards sont sur nous. Comment s'absorber là et prendre conscience de la présence de Dieu? Nous qui souvent pensons que les gens nous regardent dans les églises alors que personne ne nous regarde, c'est évident. Nous sommes complètement ignorés les uns des autres. Si vous êtes gêné de vous avancer, cessez de vous gêner. Avancez, personne ne vous regarde, personne ne regarde. Mais elle, les gens devaient la regarder. Alors, il se dessine de toutes sortes de problèmes, tout à coup. À cette époque qui, pour elle, est remplie d'honneur et de plaisir à bien faire et à faire toutes sortes de choses merveilleuses. C'est peut-être à cause du meurtre d'un fils du premier mariage de Constantin. Je vous avais dit que Constantin avait épousé Fausta. C'est aussi peut-être justement cette Fausta qui était une criminelle, qui était soupçonnée du crime du fils du premier mariage, parce que Fausta voulait probablement qu'un de ses propres fils règne. Ça se faisait, on l'a vu, n'est-ce pas, dans Moi, Claudius, là, les films à la télévision sur ces empereurs, les crimes qui se passaient dans ces familles, c'était épouvantable. Alors Hélène s'éloigne de Rome. qu'elle trouve beaucoup trop païenne. Elle se rend en pèlerinage en Terre Sainte, vous voyez venir, c'est elle qui découvre la croix. Et dans une marche triomphale, parce que c'est un cortège triomphal qui se déroule autour d'elle, au milieu des peuples qui sont empressés de la voir et de l'acclamer, un peu comme quand on promène la reine à travers le Canada, on voit beaucoup de gens qui s'avancent vers le train pour voir la reine, mais c'était la même chose, hein. Pas de train cependant, évidemment. Et alors, elle visite avec beaucoup de tendresse, de générosité, les provinces orientales, et finalement cette grande impératrice, Hélène, atteint la Palestine. Depuis l'empereur Adrien, vous avez peut-être lu le livre sur l'empereur Adrien de Marguerite Yourcenar. Alors depuis Adrien, les lieux saints avaient été profanés. Les païens qui voulaient effacer tout souvenir de la résurrection avaient élevé un temple à Vénus sur une esplanade grandiose qui réunissait le Golgotha au Saint-Sépulcre. Et Constantin a donné l'ordre d'édifier l'église de la résurrection que l'on va toujours voir quand on va à Jérusalem. C'est le centre de notre foi chrétienne, là où Jésus est ressuscité dans le tombeau que l'on peut voir, on peut s'y agenouiller. Que de gens se sont convertis en s'agenouillant contre la pierre du tombeau, hein. On entend des récits même contemporains de gens, d'artistes qui sont allés là, et j'en voyais à la télévision française il y a quelques mois. Mais Hélène va donc devenir une héroïne légendaire, où on ne sait pas trop, dans ce qu'on raconte, ce qui est vrai et ce qui est merveilleux. Tous les historiens de l'Église s'entendent pour se poser des questions à ce sujet. Ce n'est pas moi qui la pose la question, ce sont les bollandistes, les grands bénédictins, les grands savants de l'histoire de l'Église. Il y a des gens qui m'accusent parfois de mettre en doute certains détails, mais ce n'est pas moi qui les mets en doute. Ce sont les grands spécialistes. Et la vraie croix a été découverte dans la première moitié du IVe siècle. C'était une émotion populaire fantastique. Et c'est Sainte Hélène qui en a reçu la gloire, si on peut dire. Mais ce n'est qu'au bout d'un siècle qu'on voit vraiment Hélène associée à ce grand événement. Les gens les plus âgés de Jérusalem, les plus sages, nous assurent dans des vieux textes que là où aurait été découvert le tombeau de Jésus, se trouveraient les instruments de son supplice, selon l'usage des Juifs, de les enterrer dans une fosse auprès du condamné à mort. Et d'après des récits assez tardifs, notre vieille impératrice Sainte Hélène ne se serait jamais lassée et elle aurait toujours cherché à aller vers la découverte. Le temple de Vénus a donc été abattu et les décombres enlevés et on a creusé. Et la grotte là du sépulcre de Jésus est apparue avec auprès dans le sol trois croix et l'inscription qui avait été détachée de la croix centrale et les clous qui avaient percé les pieds et les mains de Jésus. C'est ce que nous racontent les vieux textes. Mais cependant, la tradition authentique ne dit absolument rien de la présence d'Hélène. L'histoire, par la suite, a amplifié de tous ces récits populaires du miracle de la vraie croix, l'évêque de Jérusalem faisant porter les trois croix chez une mourante, les appliquant séparément sur la malade. On raconte même que la troisième ayant touché la moribonde, elle s'est levée, elle était guérie, et Hélène, l'âme pleine d'action de grâce, aurait laissé une partie du bois sacré à Jérusalem pour être déposée dans l'église élevée par l'empereur, l'église de la résurrection, et aurait rapporté l'autre partie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'impératrice a fait bâtir une basilique au Mont des Oliviers et une autre à Bethléem, la belle basilique de Bethléem, où il faut rentrer en se penchant tellement la porte est basse afin d'éviter que les gens rentrent à cheval. C'est assez étonnant, cette basilique de Bethléem qui est immense et qui est magnifique. Que j'aime cette basilique, hein. Et avant de quitter la Palestine, où elle était restée à peine quelques mois, bien Hélène a voulu réunir des religieuses, des vierges consacrées au Seigneur et revêtues de l'habit des esclaves. Et elle les a servies de ses propres mains. Elle est revenue à Jérusalem épuisée. Elle a entretenu longuement son fils, l'empereur Constantin, sur la façon juste et sainte de gouverner selon la loi de Dieu. Et sainte Hélène est morte, pleurée de tout un peuple, qu'elle avait couvert de tant de bienfaits et de tant d'esprit de charité. Elle a emporté avec elle toute la reconnaissance de l'Église. L'empereur Constantin a fait ériger sur la place de Constantinople, d'après son nom, une croix avec une statue représentant sa mère, et pour témoigner de sa dévotion et de son amour pour sa mère, de son respect aussi à l'égard de l'instrument du salut du monde, bien Constantin a défendu dorénavant de crucifier les malfaiteurs, ce qui était marque de rejet complet, allait devenir l'objet de vénération, la croix. Et dans les siècles qui ont suivi, le nom d'Hélène a toujours été lié à la découverte de la vraie croix. C'est pour ça que partout où les orthodoxes prient et pratiquent leur religion admirable et leur liturgie, il y a toujours le signe de la croix, et en particulier la croix aux mains du célébrant pour bénir la foule. Et les chrétiens là-bas font leur signe de croix comme nous, chrétiens catholiques, faisons le signe de la croix sur notre corps. Et nous mettons des croix partout afin de rappeler le martyre de Jésus et la grandeur de Jésus sur la croix qui le mène à la résurrection. Et maintenant, nous allons passer à Saint Stanislas Kostka, ce jeune jésuite qui a été signalé comme un modèle à la jeunesse jusqu'à tout récemment. On ne parle plus, je pense, dans nos écoles, malheureusement, ou dans nos universités, de ces grands modèles de vie chrétienne que sont Saint Louis Gonzague, Saint Jean Berchtmans, dont c'était la fête tout récemment, et Saint Stanislas Kostka, dont c'est la fête aujourd'hui. Trois saints jésuites, trois jeunes saints. C'est un trio de jeunes saints que la Compagnie de Jésus, les jésuites, a toujours eu à cœur de présenter aux jeunes. Je me souviens, dans ma jeunesse, on nous parlait à Brébeuf, au collège Jean de Brébeuf, de ces jeunes saints. Et d'entre les trois, je crois que c'est Stanislas Kostka que l'on fête aujourd'hui qui est le plus sympathique. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de regarder son portrait. C'est une espèce de figure un peu poupine, un peu ronde, qui a des couleurs. Il y a deux grands yeux qui brillent là-dedans. Ce sont des yeux qui ont vu la Sainte Vierge et Jésus et qui ne s'en sont jamais détachés. Il a toujours été habité par cette vision qu'il avait eue. Et dans cette figure s'exprime, au fond, tout un courant que l'on retrouve chez beaucoup de jésuites, et aussi toute une spontanéité, une folle ardeur, que l'on retrouve chez aussi des Polonais profondément croyants. Qu'on pense à Lech Walesa. Cette ardeur extraordinaire qui a mené la Pologne à la liberté, à l'indépendance. C'est admirable de ce grand catholique qu'est Lech Walesa. Il faudra qu'un jour on en parle de Lech Walesa. Et Stanislas Kostka est né au mois de septembre 1550 à Roscov, au diocèse de Plock. Oui, diocèse de Plock, c'est assez curieux comme nom. Il appartenait à l'une des familles les plus riches, les plus influentes de la Pologne. Mais dans ce milieu-là où il a grandi, c'était pas très, très édifiant. Les conversations étaient assez saugrenues. Bon, c'est comme aujourd'hui, au fond, un peu partout. Dans ce temps-là, c'était dans les milieux riches. Aujourd'hui, c'est partout. Même dans les plus petits villages, paraît-il, nos enfants grandissent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais l'âme de cet enfant était remplie d'une grande fraîcheur. Et ça amenait chez lui une réaction un peu violente au fond de son cœur devant les propos malsains qu'il entendait.
Il détestait tout ce qui était désagréable. Ça me rappelle mon petit-fils Pascal. Dès qu'il voit à la télévision quelque chose qui est violent, il faut changer de poste. Grand-papa, change ça, je veux pas voir ça. Et je trouve ça sympathique parce qu'à 10 ans, il a une âme pure. Et Stanislas a grandi comme ça jusqu'à 13 ans dans ce milieu. Puis son père, je crois qu'il était sénateur, l'a envoyé avec son frère aîné, Paul, sous la conduite d'un précepteur qui s'appelait Bilinski, pour achever son instruction au collège des Jésuites de Vienne. Ils y sont arrivés le mois de juillet, en plein été, en 1564. Les premiers collèges de la Compagnie de Jésus ne recevaient en principe que des externes. Mais à côté du collège, à Vienne, les pères jésuites avaient une sorte de pension de famille où les élèves partageaient un peu la vie des professeurs. Et l'âme du jeune Stanislas, devant ses professeurs, ces jésuites qui sans doute étaient en grande soutane noire, peut-être avec déjà leur chapelet à la ceinture, comme je les ai vus dans ma jeunesse, la barrette sur la tête, mais s'est dilatée. Son âme s'est dilatée dans ce climat spirituel. Mais si on peut dire, la lune de miel n'a pas duré bien longtemps. Parce que Ferdinand Ier, qui régnait dans ce temps-là, est mort en 1564, la même année où ils sont arrivés. Il avait succédé à Maximilien II. Et puis, Ferdinand a retiré aux Jésuites le palais qui avait été mis à leur disposition par son père. Il voulait persécuter, quoi. Les Jésuites, déjà, en 1564. Ils ont toujours été persécutés, ces Jésuites. Hein. Et les élèves ont dû chercher un abri où bon leur semblait, dans la ville. Et Paul Kostka, le frère aîné de Stanislas, en a profité pour élire domicile chez un luthérien, le sénateur Kimberker, ou Kimberker. Et le précepteur, le Bilinski, et lui, y étaient plus à leur aise que dans l'atmosphère plutôt monastique du collège. Ils étaient un peu légers par rapport à leur christianisme, ces deux-là. Mais ils se sentaient responsables quand même à l'égard du jeune Stanislas. Et qui pouvait dire jusqu'où mènerait la dévotion qui habitait le cœur de Stanislas? Alors ils l'ont envoyé paître assez souvent. Hein. Mais Stanislas a tenu bon, malgré les difficultés. Il a continué à jeûner le samedi. Il se retirait pour prier dans les recoins de la maison. Et souvent, il y avait des serviteurs qui étaient chargés de le surveiller pour qu'il ne prie pas. Mais il se sauvait. Il courait à l'église des Jésuites. Paul, son frère aîné, profitait de son argent, lui, pour courir avec des compagnons, pour aller dans les clubs, dans les théâtres, dans les bals. Et quand il rentrait le soir, lui et ses compagnons, mais Stanislas était encore agenouillé au pied de son lit, dans la chambre commune. Et tandis que le précepteur Bilinski se contentait de se moquer de Stanislas, eh bien, Paul, le frère aîné, pouvait tout se permettre. Il bousculait Stanislas, il le jetait par terre, lui donnait des coups de pied, des coups de canne. C'est terrible, et un jésuite qui a écrit sa vie au début du siècle, père Martin Dahl, se prend à regretter que Stanislas n'a pas répondu et qu'il n'ait pas jeté Paul par terre, ou du moins essayé de le jeter par terre, parce qu'il dit, quel meilleur moyen de calmer quelqu'un chargé d'envie et de haine et de malveillance. Souvent, une bonne bataille rénove la perte de l'amitié entre deux frères. C'est un point de vue. Mais de toute façon, des méthodes excellentes au collège et à la caserne, là, ce sont pas celles que ce jeune saint Stanislas voulait utiliser, et dès lors, on pouvait pas reprocher à Stanislas d'ignorer ses méthodes. Il avait des principes, comme son frère Paul avait les siens, mais les méthodes de Stanislas l'ont mené à la sainteté, comme on le verra tout à l'heure. Je continue donc avec saint Stanislas Kostka, un jeune Polonais, jésuite, décédé à 18 ans. Nous l'avons ici, il a 15 ans. Un jour, il tombe malade. Son cas devient tragique. dans la maison d'un luthérien, avec son frère Paul et le précepteur qui est aussi étrange que Paul et qui court la galipote plus ou moins le soir, Stanislas ne pouvait pas espérer recevoir les sacrements, la communion surtout, et il en avait faim. Il voulait recevoir l'Eucharistie. Or, dans une telle vie, dans la vie d'un saint comme Stanislas Kostka, on entre de plein pied dans le surnaturel étrange, comme dans la vie de Marthe Robin, qui recevait miraculeusement la communion. Je vous parlerai un jour de Marthe Robin, et c'est récent, elle est morte au début des années 80. Ben lui aussi, lui arrive des choses étonnantes. Les anges, les saints supplient à ces hommes qui ne voient pas à ce qu'ils reçoivent la communion. Un jour, on était au mois de décembre. Stanislas invoquait une sainte. Quand, une nuit, qu'il était plus mal et qu'on le veillait, il ordonne à ceux qui sont auprès de lui de se mettre à genoux. Car deux anges, accompagnés de cette sainte, Sainte Barbe, lui apportaient la communion. Et lui-même saute de son lit, s'agenouille, récite trois fois le Domine non sum digne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Et il reçoit l'hostie. On l'a vu, mais le mal empirait et tout semblait perdu. Alors, Marie, la Sainte Vierge en personne, est intervenue. Elle lui apparaît une nuit, tenant dans ses bras son enfant, Jésus. Et elle s'incline vers lui et elle dépose Jésus dans les bras de Stanislas, qui l'embrasse tendrement. Il a été guéri sur le champ. Puis Marie lui ordonne d'entrer dans la compagnie de Jésus, de son fils. Alors une fois sorti de la convalescence de cette maladie qui avait failli le réduire à la mort, et le jeune Stanislas n'a pu penser qu'à obéir à Marie. Mais comment faire? Son père, qui était très puissant en Pologne, et les jésuites de Vienne le savaient. Ils savaient aussi que le monsieur Kostka n'agrirait jamais à ce que son fils entre chez les jésuites. Alors Stanislas avait donc bien peu d'espoir, mais il ne désespérait pas. Un étranger qu'il rencontre et qui est mis au fait de la situation, lui suggère de se rendre directement auprès du provincial, Saint-Pierre Canisius, et même auprès du général des Jésuites, Saint-François Borgia. Imaginez, deux saints, l'un qui était provincial, l'autre général. Il n'était pas canonisé encore, évidemment. Le général était à Rome, hein, François Borgia. Alors Stanislas Kostka saute sur l'occasion. Il profite d'une dispute avec son frère, qui l'envoyait au diable. Il s'est levé de grand matin. Il a prévenu un serviteur, un laquais, comme on dit, qu'on ne devait pas l'attendre pour le repas. Et là, il prend la route. Il est muni d'une lettre de son conseiller, cet étranger mystérieux. Mais le frère aîné, Paul Kostka, puis le précepteur Bilinski, au premier moment de stupeur passée, puisqu'il ne le trouve pas, il se jette à sa poursuite. Mais à cause de son déguisement, la blouse serrée à la taille par une corde, un grand chapeau de paysan, ils ne le reconnaissent pas. Ils le dépassent, ils reviennent bredouilles, sont découragés. Ils arrivent à Vienne complètement déçus. Mais Stanislas, lui, continue son chemin vers Augsbourg, fameuse ville dont je vous parlerai en parlant de toutes sortes d'événements dans l'histoire de l'Église. C'est une ville importante, Augsbourg. Et là, il pousse jusqu'à Dillingen, où était le provincial, Saint-Pierre Canisius. Et infatigable, Stanislas Kostka part sans plus attendre à jeun. Il voulait communier en route. Alors il entre dans une église, mais il est complètement déçu d'apprendre que cette église catholique est devenue un temple protestant luthérien. Il n'y a plus de communion possible. Et là encore, Dieu a eu pitié de lui. Et un ange l'a communié. C'est ce qu'a raconté Stanislas Kostka, et sa joie est très grande. On dira que c'est pas possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a tellement de choses étonnantes dans la vie des saints, même aujourd'hui, même au XXe siècle. Et sa joie était plus grande encore à l'accueil de saint Pierre Canisius, à l'inverse des autres supérieurs, passe par-dessus toutes les considérations humaines, et Pierre Canisius l'admet dans la compagnie de Jésus. Mais il n'a pas oublié d'éprouver saint Stanislas. Et pour cela, il l'a envoyé au collège de Dillingen pour remplir les fonctions de serviteur. Et parfaitement inconnu, Stanislas Koska, qui était de si grande famille, a vécu dans l'humilité sans se rebeller du tout. Une seule chose le tracassait, c'était la proximité de la Pologne. Il avait peur de son père. Alors, il demandait à faire son noviciat à Rome. Alors, il est parvenu avec quelques compagnons en octobre 1567. Il n'avait que 17 ans. Et c'est le père Martin Dahl qui écrit dans la vie, il dit, dans ce havre céleste, ce sont les expressions de l'époque, il y a à peine 75 ans, Stanislas mena une vie où l'analyste n'a rien à relever. L'analyste, c'est celui qui a écrit la vie de Stanislas Koska au tout début. Le père Martin Dahl continue, le noviciat a ses poids et ses mesures. Il se donne ses perspectives. Le monde refluait dans l'imagination de Stanislas Koska à une distance de rêve. Que son père le menaça par lettre ou qu'au dire de Nicolas Le Soïki, un condisciple de Vienne, il menaça le cardinal Osius de faire abolir la compagnie en Pologne, rien ne put rider le calme de son âme. Bon, c'est très compliqué, c'est phrase alambiquée. En d'autres termes, il y a un condisciple de Stanislas qui raconte que même si M. Koska, très puissant en Pologne, menaçait le cardinal à Rome de faire abolir les jésuites en Pologne, rien n'a pu décider Stanislas à quitter les jésuites. Il goûtait le bonheur du ciel parmi eux. Il ne pensait qu'à Jésus et à Marie. Et ça a duré 9 mois. Stanislas est tombé malade, peu avant le 15 août. La chaleur de Rome l'accablait. Quand il fait chaud à Rome, il fait chaud. C'est encore pire que la chaleur qu'on a eue depuis quelque temps. Alors, Stanislas a déclaré à tout le monde qu'il ne relèverait pas sa maladie. Alors, les plus vieux ont pensé qu'il exagérait et que de toute façon, on ne pouvait pas mourir à 18 ans. Le 14 août, il allait plus mal et reçut les derniers sacrements. Et au matin du 15 août, le jour de l'Assomption, pour s'assurer qu'il vivait encore, on approchait de ses lèvres non pas un miroir, mais l'image de la Vierge Marie. Il n'a pas bougé. Il était parti. Il n'avait pas encore ses 18 ans. Et béatifié par Clément VIII en 1604, Stanislas Koska a été canonisé par Benoît XIII en 1726. Il a même été proclamé patron de la Pologne avec le roi Saint-Casimir, qui lui était décédé très jeune aussi, à 34 ans. De 13 à 17 ans, ce jeune Polonais, Stanislas Koska, sur l'ordre de son père, on l'a vu, est élève des Jésuites, finalement, à Rome. Et après, il est allé à Vienne. Et Bilinski, qui veille sur les deux fils de ce sénateur polonais, rapporte quelque chose d'assez étonnant, une déposition qu'il a faite. À Rome, nous logions ces jeunes luthériens. En somme, c'est à Vienne, il y a une erreur. Stanislas, étant tombé malade en décembre, je passai 7 nuits consécutives à son chevet, dans l'attente de recueillir son dernier soupir. Pendant l'une de ces nuits, je fus stupéfait de constater que son visage semblait réanimé avec un aspect respectueux et doux. Il se tourna vers moi et me déclara d'une voix claire et distincte, « J'aperçois Sainte Barbe, la Vierge martyre, accompagnée de 2 anges. Veuillez vous mettre à genoux pour vénérer un si grand mystère. » Et ensuite, je fus témoin de ce qui suit. En l'occurrence, je demeure persuadé que mon élève jouissait du parfait usage de ses facultés. En effet, il prit une posture révélatrice de la vénération ressentie, et ce prodige se produisit à minuit. Sainte Barbe entra dans la chambre du malade en compagnie de 2 anges. L'un d'eux portait l'Eucharistie qu'il donnait à Stanislas. Ce dernier en éprouva un suave ravissement. Il se leva immédiatement et se frappa trois fois la poitrine en disant le Domine non sum dignus. Et après réception d'Eucharistie, il se recoucha, l'âme comblée par l'hôte divin qu'il venait d'accueillir. Ce témoignage est étonnant parce que c'est le témoignage d'un homme qui n'était pas très sérieux souvent comme précepteur, mais qui a été témoin du miracle, qui a changé de vie. Parmi les phrases de Saint Stanislas Kostka, l'une des plus belles, c'est « Il naît de... » C'est un jeune homme, hein, 17 ans, 18 ans. « Il naît d'authentique grandeur que celle qui vient de la grâce de Jésus-Christ, par laquelle nous sommes faits enfants de Dieu et héritiers de son royaume. » Au sujet de la Vierge, il y a deux phrases très belles. « Comment n'aimerais-je pas la Vierge Marie? Elle est ma mère. » Mais oui, parce que Jésus nous l'a donnée comme mère en la personne de Saint Jean sur la croix. Hein? C'est la tradition qui nous enseigne. Voici ta mère. Il dit aussi, à un moment donné, sur son lit d'agonie, « Je vois ma bonne mère au milieu des anges. » C'est un jeune saint étonnant, très attachant. Et ça me porte à vous parler d'un jésuite, comme je vous l'ai dit, qui est mort en 1952 à Santiago, au Chili. C'est le bienheureux Alberto Hurtado Gruchaga, des prêtres, fondateur d'un mouvement chrétien pour s'occuper des plus pauvres. Il est né en 1901, au début de notre siècle. Il a connu très jeune la condition épouvantable du pauvre qui dépend des autres. Alors, pendant sa scolarité, comme boursier au Collège Saint-Ignace de Santiago, il passait ses dimanches avec les pauvres. C'était un élève extrêmement brillant. Il a été admis chez les jésuites en 1923, à 22 ans. Il a fait sa philosophie, sa théologie en Espagne, puis en Belgique. Et de retour au Chili, on dit que sa vie apostolique a été intense. Il était professeur, directeur de la congrégation mariale des jeunes. J'en ai fait partie à Brébeuf, et ça peut être très intéressant quand c'est bien dirigé, bien fait. Il y avait là des gars extraordinaires qui sont devenus députés ici au Québec, d'autres sont devenus d'éminents jésuites, dont l'un, Louis Laurendeau, est devenu secrétaire général des jésuites, le père Aroupé, pendant 14 ans. C'est mon ami d'enfance, Louis Laurendeau. Quel prêtre admirable. Et notre bienheureux du jour, le père Alberto Hurtado Cruchaga, était aussi conseiller de la branche jeune de l'Action catholique sur le plan national au Chili. Il était prédicateur de retraite. Avec un groupe de laïcs engagés, il a fondé une première maison pour les enfants de la rue, les enfants abandonnés dans la rue. Il a créé en même temps le mouvement des El Hogar del Cristo. Son but était, en effet, de donner aux sans-abri, aux abandonnés, non seulement un toit, une maison, mais aussi un foyer au climat familial. C'est ce que j'ai essayé de faire avec un seul jeune pendant 23 ans. C'était très difficile. Mais quand je vois ces gens qui en adoptent je ne sais combien, quels problèmes ils doivent affronter. Ça doit être terrible et à la fois merveilleux. Merveilleux. En 1951, il n'y a pas si longtemps, hein, il a créé la revue Mensaje, Message, pour expliquer et répandre la doctrine sociale de l'Église. Et ce jésuite, plein de charité, est mort à Santiago le 18 août 1952. Il a été béatifié l'an dernier, en 1994, le 16 octobre, à Rome. On peut l'invoquer. C'est demain la fête de Saint-Jean-Eudes, fondateur de la congrégation de Jésus et de Marie, c'est-à-dire des eudistes, et aussi de la congrégation du bon pasteur. Il a vécu au XVIIe siècle. Il est né en 1601, il est mort âgé en 1680. C'est un des plus saints hommes du siècle de Louis XIV, un de ceux qui ont fait renaître la vie religieuse en France. Son père, au prénom surprenant pour nous, Isaac Eudes, qui était à la fois étrangement un cultivateur et un chirurgien, près d'Argentan. Il avait songé à devenir prêtre dans son jeune âge. Il avait renoncé pour fonder une famille. Mais ils n'ont pas eu d'enfants. Alors, monsieur et madame Eudes ont prié. Ils ont imploré Notre-Dame de Recouvrance. C'est très populaire en France pour obtenir un enfant, justement. Alors, les berceaux se sont remplis. Et Jean Eudes a été l'aîné de 4 sœurs et 2 frères. De ses enfants, les parents ont beaucoup aidé à l'instruction de leurs enfants. D'ailleurs, l'un d'eux est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'est pas peu dire. C'est un frère, donc, de notre Saint Jean Eudes. Jean Eudes avait un caractère impétueux, lui. Ça mène à la sainteté, souvent, des caractères, de mauvais caractères. Hein, ça aide, quand c'est transformé par la grâce, par l'Esprit Saint. Il avait été consacré très jeune à la Vierge Marie. On l'a vu en grandissant, il se corrigeait de son défaut. Grâce à l'amour que la Vierge lui portait et qu'il ressentait au fond de son cœur. Sa mère, d'ailleurs, devait modérer sa piété à un certain moment, pour qu'il continue à jouer dehors comme un enfant de son âge. Mais c'était un enfant violent, d'un certain point de vue, je vous l'ai dit, impétueux. Il s'appliquait avec difficulté à avoir ce qu'il appelait la douceur de l'Évangile. C'est comme ça qu'il appelait ça. « Je voudrais avoir la douceur de l'Évangile ». Il avait 9 ans quand un camarade, d'ailleurs, l'a souffleté. Et notre petit saint, Jean-Eudes, déjà a tendu l'autre joue, imaginez, à 9 ans. Lui qui était violent, hein, mais il savait qu'il était violent et que s'il avait répondu, ça aurait tourné en vraie bagarre. Alors il a dit à son petit ami, « Frappe de l'autre côté, si tu veux. » On voit l'impétueux qui retient toute sa colère, mais dans sa colère, il y a une autre forme d'impétuosité qui fait qu'il y a une vertu fantastique qui jaillit. Hein. Alors son camarade était tout penaud, il ne savait plus quoi faire. Il n'a pas osé le gifler sur l'autre joue. Puis il a raconté plus tard, sur ses vieux jours, le fait qu'il avait vécu. Il a raconté ça avec énormément d'admiration. Donc Jean-Eudes était premier de classe. Et il se considérait, d'autre part, comme fiancé à la Sainte Vierge. C'était naïf, mais c'est bien sympathique. Hein? Puis, en témoignage, il avait même passé, moi je trouve ça bien charmant, un anneau au doigt d'une de ses statues, des statues de la Vierge, pour se fiancer avec elle. Ça peut être trouble, mais ça peut être très beau. Hein? Faut faire très attention à ces choses-là. Faut pas prendre ça sur le côté... Oh, les psychologues, là, j'en vois, j'en entends, là, qui se disent, ah, ah, oui, oui, on peut analyser ça, psychanalyser tout ça. Mon Dieu, la psychanalyse. Et alors, notre Jean-Eudes fait finalement sa première communion, il ressent un immense amour pour l'Eucharistie. Ça dirige toute sa vie. À 15 ans, il entre au collège des Jésuites de Caen. Un autre formé par les Jésuites. Termine ses études littéraires, ses études de philosophie. Et cette fois, comme un jeune impétueux, c'est avec son sang qu'il signe un contrat qui l'engage au service de la Sainte Vierge. Mon Dieu, on faisait ça quand on était jeune. Je me souviens, on se coupait le poignet puis on signait avec notre sang. On faisait ça. C'est sympathique. L'élève Jean-Eudes, qui est un élève exemplaire, rêve de se faire prêtre. Mais une surprise l'attend se retour chez lui. Ses parents lui parlent d'une belle jeune fille qu'il désire lui donner comme épouse. Alors Jean-Eudes révèle à son père sa vocation, qui est bien différente. Et il n'obtient pas facilement le consentement de son père. Alors, il entre dans la congrégation de l'oratoire qui a été fondée par M. de Bérulle, le cardinal de Bérulle. Sa santé est faible. Il est ordonné prêtre. Il se retire dans une paroisse à Aubervilliers. Et 2 ans plus tard, il apprend que la peste ravage le diocèse de C. S, accent aigu, E-S. Les malades sont abandonnés par les bien portants qui s'enfuient. Alors Jean ne songe plus qu'à voler à leur secours et pendant 2 mois, il se dévoue de toute son âme. Alors là, l'épidémie diminue et le père Eudes organise une mission à Caen. Caen, c'est C-A-E-N, comme vous savez, la ville de Caen, hein, vous connaissez ça. Mais la peste n'a fait que se déplacer. Alors là, le fléau s'abat sur cette belle ville de Normandie dont beaucoup de nos familles viennent et Jean Eudes reprend ses soins, son dévouement. Rien ne lui fait peur pour sa propre personne. Il parle de lui-même en disant que sa propre personne est plus méchante que la peste. S'il y a de l'humour là-dedans. Hein. Mais les habitants, eux, craignent qu'il leur apporte la contagion. Alors, ils s'installent dans un tonneau au milieu d'un champ. C'est appelé, ce champ-là, maintenant, le Pré du Saint. Et de bonnes religieuses le prennent en pitié, lui apportent chaque jour de la nourriture. Alors il retourne à son couvent pour se dévouer à deux religieux et à son supérieur qui se meurt de la peste. L'épidémie enfin se dissipe, mais là, Jean, eux, n'en pouvant plus, il est pris de fièvre. Et tous les habitants se mettent en prière pour implorer sa guérison. Et là, un alléluia général éclate quand reparaît notre bon samaritain. Et Jean, eux, va commencer sa grande œuvre de prédication et de mission. Il devient un très grand prédicateur. Il lutte contre le calvinisme, les protestants calvinistes, contre les horreurs de la guerre civile, contre l'ignorance du clergé aussi qu'il veut transformer, contre les vices des fidèles. Il s'attaque à tout. On peut mesurer ce qu'est l'action d'un saint. 15 000 âmes se pressent autour du père Jean-Eudes qui prêche en plein air. Les pécheurs entrent en repentir et pour se confesser à lui, ils attendent leur tour jusqu'à 4 ou 5 jours. Je me souviens d'avoir attendu comme ça 3 jours pour me confesser à notre cher Padre Pio à San Giovanni Rotondo en 1950. Afin de ne pas perdre leur place, les pénitents se ravitaillent de quelques morceaux de pain, comme les jeunes là, qui veulent entrer au forum pour entendre des groupes de rock. C'est absolument aberrant aujourd'hui. Hein? Les vieilles coutumes païennes disparaissent à Autun. Une procession de la Vierge remplace les scandales de la mi-carême qui se célébrait le jeudi de la 3e semaine de carême. Dans la ville de Meaux, où Bossuet était évêque, sur la grande place, les livres malsains apportés par la foule elle-même sont brûlés dans un immense feu de joie. S'il fallait qu'on brûle à Montréal tous les livres malsains, ça ferait un feu énorme. Hein? Et le père Jean-Eudes a prêché à travers la Normandie, en Bretagne et jusqu'à Saint-Étienne. À Paris, M. Jean-Jacques Ollier, le fondateur des Sulpiciens qui ont fondé Montréal à leur tour, eh bien, il est curé à Saint-Sulpice, la belle paroisse Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement à Paris, mais il lui fait organiser 5 missions. Il en préparera 2 autres plus tard pour le plus grand bonheur de Saint-Vincent de Paul. Il est devenu si célèbre que 10 évêques sont présents. 10 évêques, c'est incroyable. À Saint-Germain-en-Laye, le roi et la reine de France se joignent à ses auditeurs. Et le père Jean-Eudes a donné sa dernière mission à Saint-Lô. Lô, c'est L-O, accent circonflexe. Hein? Voici 40 ans qu'il prêche et ce n'est là qu'une partie de son activité. Il était le grand créateur de séminaires, de couvents. Il avait remarqué avec peine l'insuffisance d'instruction du clergé. Alors, il quitte l'oratoire pour fonder la congrégation de Jésus et de Marie, les Eudistes, chargés d'organiser des séminaires, comme avait fait Jean-Jacques Ollier, les Sulpiciens. Et sur la demande du cardinal de Richelieu, il fonde le grand séminaire de Caen, et plus tard, ceux de Lisieux, de Rouen, d'Évreux, de Rennes, en Bretagne. Par ailleurs, il avait une grande pitié des malheureuses filles qui veulent changer de vie. Alors, il groupe des gens merveilleux pour les aider à rester dans le bon chemin. Et pour elles, il fonde le refuge de Notre-Dame de Charité, d'où sortira au 19e siècle ce qu'on appelle le bon pasteur. Quand arrive la Révolution, 7 maisons étaient établies. Les sœurs ont échappé à grand-peine à l'échafaud. Hein. Et au milieu de tant d'occupations, de tant de raisons de dévouement, de grands désirs du père Jean-Eudes, était de répandre la dévotion au Sacré-Cœur. Il en a été vraiment le promoteur. Il a composé des livres, des hymnes. Il a lutté contre le jansénisme. Il achevait d'ailleurs un ouvrage sur le cœur admirable de Marie quand une forte fièvre l'a saisi. Il était déjà accablé d'infirmité. Il avait fort souffert de la calomnie des jaloux. Les jaloux dans l'Église font toujours un tort immense à ces grands saints. C'est terrible. Il avait des peines physiques, des peines morales, mais il acceptait tout avec douceur. Puis il a réconforté ses frères qui pleuraient, avant de rendre son âme à Dieu. C'était un saint absolument admirable. « Qu'est-ce, je vous prie, que tous ces saints, disait-il, ce sont autant de flammes de la fournaise immense du cœur divin, du saint des saints. » N'est-ce pas la bonté et l'amour de ce cœur tout aimable qui les a fait naître en terre, qui les a éclairés de la lumière de la foi, qui les a fait chrétiens, qui leur a donné la force de vaincre le diable, le monde et la chair, qui les a ornés de toutes les vertus, qui les a sanctifiés en ce monde, qui les a glorifiés en l'autre, qui a allumé dans leur cœur l'amour qu'ils portent à Dieu, qui a rempli leur bouche de ses divines louanges, et qui est la source de tout ce qu'il y a de grand, de saint et d'admirable en eux. C'est pourquoi, si l'on célèbre, durant le cours de l'année, tant de fêtes en l'honneur de ces mêmes saints, quelle solennité mérite ce divin cœur, qui est le principe de tout ce qu'il y a de noble et de glorieux dans les saints. Voilà Jean-Eudes comment il parlait. Quel homme fantastique, fondateur des eudistes, que je salue. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. À la production technique, Isabelle Poirier.